Hier, j'ai aidé mon voisin qui avait un voyage de sable à transporter. Il voulait pas faire ça à pelle parce que ça finit plus. Il faut qu'il monte ça en haut de son terrain. Alors, je lui ai prêté un petit trailer que mon père m'a donné. Là, il était vraiment content, mon voisin, parce que ça y a sauvé sa fin de semaine, comprends-tu? Alors, je retourne chez nous après ma marche l'après-midi, en famille, beau soleil, puis qui est-ce que j'entends pas? Le tracteur à gazon de mon voisin qui est revenu porter le tracteur dans ma cour. Puis il m'a offert une belle grosse bière ovale. Et là, j'étais content. Je me suis dit, ma soirée vient de prendre un tout autre sens. Alors, on va coucher ma fille, puis ça marche bien. Fait que là, après ça, ben, on a du temps un peu pour nous. Puis il faisait beau hier soir,
oui,
en
vraiment.
Plus. Hein.
Mm-hmm.
On a décidé de boire notre bière sur la terrasse. Ça allait bien, nos affaires. Là. Ça allait bien. Le soleil se couchait tranquillement. Petits oiseaux faisaient cuit-cuit. L'air chaud qui nous rappelait la Californie, notre dernier voyage. C'était la même température qu'il faisait. Et là, on était bien. Jusqu'au moment où un vilain maringouin m'a piqué sur le coude. Le petit maudit. Ça allait bien jusqu'à là, là.
Ça prend pas grand-chose pour scraper ta soirée, toi, hein?
Non, non. Là, j'ai dit, chérie, on rentre. On a écouté quelque chose sur Netflix qui est complètement fou. C'est, je me rappelle pas c'est quoi le titre, mais c'est un documentaire qui parle de consommation de LSD. Hey, là, là,
ben,
notre soirée
donc.
A repris un tout autre sens. C'était complètement divertissant. Faut que je vous retrouve le titre de ce documentaire-là. C'est
mais
vraiment
qu'est-ce qui
drôle.
Motive? Qu'est-ce qui te motive à écouter ça?
La bande-annonce était vraiment bonne.
Okay.
C'est des personnalités publiques qui racontaient leur expérience sur le LSD. C'est vraiment ridicule
ah,
d'un
ben.
Bout à l'autre.
Ah ouais. Okay.
Oui. C'est comme sur Crave, il y a une série qui s'appelle Drunk History. C'est des gens qui sont complètement sous, qui racontent l'histoire. Donc, c'est comme des faits historiques racontés par quelqu'un en boisson. Puis, il y a des acteurs qui recréent cette histoire-là. Mais c'est narré par la personne en boisson, fait que c'est drôle en tabarouette.
C'est bien bizarre,
Drunk
ça.
Drunk History, okay. C'est sur Crave. Est-ce que vous avez des gens qui parlent dans leur sommeil, dans votre entourage?
Oh, mon
Et
Dieu!
Et c'est-tu tannant?
Ben oui! C'est tannant. Ben, c'est surtout tannant pour la personne qui dort avec, avec ces gens-là.
Ben oui. Là, tu te fais réveiller, tu te fais poser une question. C'est bien mauseuse de ne pas y répondre, mais en même temps, la question, tu la comprends pas.
Parler dans son sommeil, ça s'appelle la somniloquie.
OK.
En passant.
Il y a un mot pour ça, Eben.
Et c'est assez fréquent quand même. Là. Je sais pas, Jay, si ta blonde parle dans son sommeil.
Moi, on dirait que c'est très relatif à ce qu'on regarde avant de se coucher. Par exemple, à un moment donné, je me rappelle, on regardait une série où il y avait des zombies, puis là, elle était pognée, ces zombies. Elle a quelque chose avec les zombies, là, là. Je sais pas pourquoi, mais là, je me levais le lendemain matin puis j'allais travailler assez tôt, évidemment. Puis elle me dit, « Hey, tu feras attention aux zombies, là, avec le plus grand sérieux, là, le sérieux le plus déroutant. » J'étais comme, « OK. Ben, » j'ai quand même fait attention, juste au cas, là. Elle était tellement sérieuse. J'y ai cru. Mais non, c'est ça, c'est le genre d'affaire qu'elle dit, là.
OK. Mais moi, mon chum, c'est presque à toutes les nuits. Hein.
Ah oui?
Sans
ah,
arrêt. Puis à un moment donné, la fois où j'ai le plus ri, c'est quand il disait « Pousse! » Pousse! Et il disait, donc, qu'est-ce qu'il fait?
Oh, ça, c'est inquiétant.
D'accoucher. Là, à un moment donné, il mentionne le nom de son meilleur ami. Pousse, Fred, pousse. Ben, qu'est-ce qui se passe?
Clairement en train de déménager.
Non, il était en train de s'entraîner au gym, je pense.
Ben là, il fait peut-être moins en vrai, mais il fait certainement en rêve.
Mon chum fait des rêves de douchebag, mais qu'est-ce qui se passe? mais c'est assez fréquent, semble-t-il. 70% de la population ont déjà parlé, mais ceux qui parlent à toutes les nuits, c'est à peu près 1% de la population.
Donc, ah, t'as
c'est
pas
quand
plus
même
que
rare,
ça?
Pas plus que ça.
Hey, t'as pogné le bon?
Ben oui, en plus, mon chien, l'autre fois,
ton chien aussi parlait en dormant.
Et là, mon chien, il dort, puis il fait des petits sillements en rêve, puis il bouge des pattes,
ben
comme
oui,
c'est court.
Fait que là, il se répond.
Ben oui.
Moi, je commence à penser que tu vis d'une maison hantée. Là.
Mais
là, il y a des affaires bizarres.
Est-ce la maison qui est hantée ou Amy qui les attire?
Ouais, il y a ça, parce que quelque chose qui fonctionne pas.
Bonne question. Ben, je peux te dire que la chambre au sous-sol est très populaire dans mon cas.
Ah ouais.
Mais oui, les animaux aussi peuvent. J'ai fait des recherches. Les animaux aussi souffrent de somniloquie par moment. Les chiens, surtout. C'est assez fréquent. Les chats, peut-être moins, là. Mais vous avez sûrement remarqué à un moment donné que votre chien était en train de faire un rêve puis il faisait du bruit.
Tu vois, la différence de mon chat, c'est pas que mon chat parle quand lui dort. Mon chat parle quand moi je dors. Puis ça, c'est tannant, s'il vous plaît, en plein milieu de la nuit. Est-ce que vous avez déjà vécu une histoire comme ça de quelqu'un ou peut-être vous qui parlez dans votre sommeil?
Ouais.
Moi, je rêve du jour où quelqu'un va me dire « J'ai dévoilé mon plus grand secret quand je dormais. » Je veux entendre cette histoire-là.
Sûr, ouais, hein?
Ah oui, ben oui, ah, c'est ouais. sûr que ça existe, okay. franchement. On parle d'ennui qu'on a expérimenté certainement à plusieurs occasions durant ce confinement.
Puis
c'est
chacun,
sûr.
Oui, c'est ça. Chacun vit différemment avec le fait de s'ennuyer. Hein.
Ouais,
il y en a qui sont incapables de rien faire, qui sont incapables de rester seuls. On dirait que c'est une source d'angoisse pour eux. Puis ils sont c'est ça.
Ah,
moi, je suis pas comme ça. Moi je suis très bien toute seule dans mes affaires.
Voilà, si on pouvait m'offrir à chaque semaine une journée complètement seule, pas parler à personne, je serais un homme tellement plus heureux. Pas que je suis malheureux présentement, mais oh que moi, là, un peu de solitude pour faire de l'ordre dans mon esprit, là, ça me fait du bien.
Ben, ça,
que
c'est...
J'ai besoin de préciser que c'est mon cas également.
Nous sommes trois grands solitaires qui parlons ensemble à chaque matin.
C'est
fascinant.
On retourne
pareil,
chacun
hein?
chez nous après, on se parle plus.
On décompresse ensemble.
Mais l'ennui n'a pas très bonne réputation, il faut dire. Hein, puis il y a des gens qui ont beaucoup, beaucoup de difficultés à ne rien faire.
Ah ouais.
Puis souvent, des fois, par exemple, je me fais prendre à ce piège-là. On dirait que je cherche quoi faire.
Ouais, mais à un moment donné, tu finis par tourner en rond.
Mais je cherche quoi faire, mais je fais déjà quelque chose. Tu sais, mettons, je regarde la télévision.
Ouais.
Ou je regarde un film.
Ouais, ouais, ouais.
Puis pendant le film.
Tu dis, qu'est-ce que je pourrais faire?
Je vais prendre mon téléphone, puis je me commande des affaires sur Internet. Là, je suis comme, ben voyons! C'est comme si j'avais pas assez.
Ça allait bien, là!
C'est comme si j'avais pas assez de
stimuli.
Oui, exact. Mais ça, faut arrêter ça tout de suite.
Ah ouais, hein?
Parce que s'ennuyer, chercher quoi faire, c'est bon pour la santé. C'est même très, très sain. Ça nous permet d'évoluer comme personne aussi. Il faut apprendre à laisser notre tête tout prendre la place,
devenir
finalement.
Créative,
laisser nos pensées prendre la place puis devenir créatif. Donc, des trucs, en fait, c'est simplement de s'engager dans une activité où on risque de s'ennuyer. Par exemple, aller prendre une marche, pas de téléphone cellulaire. Il y en a beaucoup qui le font, mais il y en a d'autres où c'est plus difficile parce que ça va être tentant pendant qu'on marche de regarder ce qui se passe. Mais non, il faut apprendre à laisser ça de côté.
Oui, parce qu'on voit ça de plus en plus. Hein. Des gens qui marchent, mais qui regardent leur écran.
Ben oui.
Je trouve ça un peu particulier. Moi.
Ou les gars aller aux toilettes.
Ma génération, là,
mais... Les gars aller aux toilettes avec le cellulaire, le journal.
C'est pas pareil.
Ben oui, c'est pareil.
Okay.
Pourquoi? À quoi ça sert?
Non, t'as tout à fait raison.
Apprenez à être seul avec vos affaires. Là.
Y a-tu bien un moment dans la journée où est-ce que t'as pas le goût de connecter avec quelqu'un puis de chatter quand t'es sur la bolle? Tu sais, à un moment donné. Là.
Oui.
Hein?
Et ça va tellement loin parce qu'à un moment donné, on a fait une étude et un test sur certaines personnes.
Ouais.
Puis on leur donnait le choix d'être enfermés dans une pièce, assis seuls avec eux-mêmes, avec leurs pensées, ou de se faire électrocuter des petits chocs de temps en temps.
Ah non, t'es pas sérieuse.
Peux-tu croire que la majorité des gens ont choisi l'électrocution plutôt que de rester seul avec leurs propres pensées?
Ah oui?
Oui. Ah, c'est pas drôle, mais tu sais, c'était
triste.
Pas c'est pas des chocs extrêmement douloureux.
Non, c'est juste désagréable.
Mais quand même, là, c'est pas le fun.
Ben
là.
Non! C'est probablement par curiosité, pour être diverti, justement, les gens aimaient mieux se faire électrocuter. On
ça
est rendu là.
Bon
c'est pas drôle. Puis c'est aussi avec les enfants, hein, parce que c'est important aussi de montrer aux enfants que c'est normal de s'ennuyer.
Oui, puis ça leur permet d'être créatifs puis de faire ce qu'on appelle le jeu libre. Moi, ça m'intéresse beaucoup en ce moment.
Oui.
Parce qu'il faut que ton enfant finisse par s'ennuyer pour créer des jeux par lui-même.
C'est ça, puis on dirait qu'on se sent mal parce que les enfants, on les boucle beaucoup, là, c'est sûr qu'en confinement. Probablement qu'il y en a plusieurs qui ont essayé de divertir au maximum les enfants.
Ouais.
Le matin, on a l'horaire, on fait du bricolage, on fait ci, on fait ça, puis on veut remplir leur vécu de belles expériences, mais on oublie de les laisser seuls à eux-mêmes pour qu'ils développent leur créativité.
Quel genre d'être humain ça va faire plus tard avec un enfant qui a jamais eu le temps de penser, puis de s'ennuyer, puis de trouver des solutions au travers de tout ça par lui-même, tu sais. Après ça, quand... Dans l'âge adulte, t'arrives puis tu fais rien, c'est sûr que t'es pas bien avec toi-même.
Ben non, parce que là, tu vas être anxieux, tu vas te dire, ben là, je sais pas quoi faire, puis y a personne qui me dit quoi faire. 'Avez-vous laissé traîner trop longtemps dans votre voiture?
Oh boy. Ah, Amy, je suis tellement gêné de dire ça.
Comment ça?
Il y a quelque chose qui traîne dans mon coffre à gants qui date de beaucoup trop longtemps. Hey, je peux pas croire que je vais compter ça. Mais qui m'est tellement utile. Dans mes moments les plus sombres, j'en ai souvent besoin.
Coudon, c'est quoi?
J'avais une paire de mitaines promo que j'avais eu en cadeau, OK, de Volkswagen. Ça venait avec le char, je me rappelle plus trop.
OK.
Puis ces deux mitaines-là, je les ai gardées, mais un moment donné, j'ai fait un dégât dans mon char. Mais tu sais, un dégât pas propre. Puis j'avais rien pour essuyer. Fait que j'ai pris une mitaine. Non. Là, il restait une autre mitaine.
Mm-hmm.
Mais je l'ai gardée aussi. Il est arrivé un autre dégât.
Bon, mais coudonc. Ouais.
Mais là, je pouvais pas jeter l'autre parce que je me suis dit, les deux ont été utiles. C'est sûr qu'elle va être utile à nouveau. Fait que j'ai une mitaine qui sert en cas de dégâts d'urgence.
Tu la laves-tu, cette mitaine-là, de temps en temps?
La dernière, le dernier dégât que j'ai eu ne nécessitait pas vraiment de lavage parce que c'était de l'eau. Là.
Okay, okay.
Mais non, c'est... Mais être encore dans le coffre à gants, en cas d'urgence, toujours là.
Donc, tu gardes toujours des mitaines, mais c'est même pas pour avoir plus chaud aux mains, c'est pour essuyer tes dégâts.
Non, c'est niaiseux.
Ben, c'est pas si pire.
Qu'est-ce qui traîne dans ton char, toi?
Ben, moi, je laisse traîner des choses volontairement.
OK.
Là, c'est sûr que j'en ai moins besoin, mais il y a eu une époque où j'avais toujours besoin de mes câbles à booster. Donc, j'avais ça dans mon coffre à gants.
Ouais.
Moi, j'ai une cassette de Nana Mouskouri dans ma voiture.
T'as-tu un lecteur cassette dans ton char?
Non.
Ah, c'est d'une tristesse. C'est ça. Ça prendrait un adapteur.
En fait, c'est une longue histoire d'amour que j'ai avec cette cassette-là.
OK. Alors, Nana Mouskouri.
Ben oui. Ben, tu sais, j'avais acheté un véhicule il y a plusieurs années.
Ouais.
Puis, il y avait une cassette de Nana Mouskouri dedans.
Puis, ça venait par défaut.
Ben oui, le monsieur m'a dit, je m'en vais m'acheter une voiture avec un lecteur CD, j'en ai plus besoin, je te la laisse. J'ai trouvé ça vraiment cute. Puis, j'ai comme pas pu me séparer de cette cassette-là. Non. Elle est restée dans ma voiture pendant 8 ans.
Le char t'a porté chance.
Et quand j'ai changé de voiture, j'ai gardé la cassette avec moi.
Ah, t'as bien fait.
Je suis comme ça, moi.
Et là, faut faire attention à ce qu'on laisse traîner dans notre
auto. Oui, mais c'est ça. Assez inoffensif, une cassette de Nana Mouskouri.
Ouais, puis une mitaine, on s'entend.
Aussi, parce qu'il y a des choses qui sont pires, dont les fameux désinfectants pour les mains.
Arrête donc,
qui,
toi.
Le Purel, là, en fait, qui ne devrait jamais être laissé dans les voitures trop longtemps parce qu'il y a quand même un risque d'incendie qui est présent. C'est pas le gros risque, mais ça peut arriver. On a vu certains cas parce que c'est très, très fort en alcool, les produits comme ça, désinfectants. Certains ont des teneurs en alcool jusqu'à 90%. Et non seulement, c'est pas bon de les laisser traîner dans la voiture pendant de longues périodes parce qu'avec la chaleur, l'alcool va s'évaporer puis le produit va être moins efficace.
Ouais.
Mais aussi, avec des températures très élevées, c'est inflammable, ça. Tu sais, des fois, là, en plein soleil, une voiture en été...
Monter jusqu'à 55 degrés.
Ça peut quand même chauffer pas mal.
Ouais.
Donc, on mentionne qu'il faut faire attention à ça, surtout que là, on s'entend pour dire que tout le monde a
son
ça,
purée,
du gel désinfectant quelque part là, à portée de main. Donc, il ne faut juste pas le laisser dans la voiture.
Tous les efforts sont nécessaires pour nous permettre de remettre le Québec en marche de façon sécuritaire et le port du masque en fait partie parce que ça protège les autres des gouttelettes que nous, on pourrait projeter. Mm-hmm. Ça nous protège pas forcément nous parce qu'on continue de se taponner à la face pour se laver les mains. C'est le moyen le plus sûr en gardant une distance de 2 mètres. Mais en portant le masque, il faut le banaliser. Il faut que tout le monde porte le masque pour que ça nous fasse plus aucune surprise.
J'en ai vu pas mal en fin de semaine.
Oui, il y en a de plus en plus. Oui,
et
c'est
ça, c'est tant mieux. Il y a des entreprises qui surfent là-dessus. Et je salue d'ailleurs les couturiers et couturières québécoises qui sont retournés, puis les producteurs d'objets promotionnels aussi, qui ont travaillé très vite pour s'adapter et offrir ces produits-là, parce qu'il y en a beaucoup plus que ce que je croyais à travers le Québec.
Oui, il y en a énormément de plus en plus, et c'est une excellente nouvelle, comme tu dis, puis ça nous change des produits made in China, hein?
T'as tout à fait raison, et c'est là que je veux m'en venir. En fait, il y a une entreprise aux États-Unis qui a décidé, elle aussi, de surfer sur la vague. Pour 90$, on peut avoir un masque fait à partir de peau de reptile, c'est-à-dire un beau masque avec, je sais pas moi, en peau de python ou encore d'iguane. Ah, ça doit tellement bien respirer. Là. Ben, c'est parce que cette entreprise-là vend normalement, justement, des peaux d'iguane et de reptiles comme ça.
Après, ils ont décidé d'en faire des masques.
Ben oui, 90$. Mais là, le problème là-dedans, Martin...
90$.
Là, ben, il y a des gens qui sont... Hey, si t'es prêt à t'acheter une sacoche avec de la peau d'iguane ou de reptile, tu sais, à un moment donné... le masque, pourquoi pas.
Mais je trouve que c'est passé date, les affaires en peau d'animaux.
T'as tout à fait raison. Et si bien que l'entreprise est pointée du doigt en ce moment parce que l'écosystème est mis en danger actuellement parce qu'il y a trop d'exploitation d'animaux de ce genre-là. Et ça fait partie des raisons pourquoi je me questionne beaucoup sur l'impact du coronavirus sur la planète en général. On peut se dire, oui, mais le monde se déplace moins. C'est bon contre les faces.
En principe, oui.
Oui, sauf que le nombre d'objets jetables qu'on consomme en ce moment est ahurissant. Les lingettes, je peux comprendre, mais les masques, là, je vois des entreprises partout à travers la région acheter des masques jetables en produit qui n'est pas réutilisable, donc qu'il faut jeter, qui vont remplir nos dépotoirs.
Ouais.
Et là, ma blonde puis moi, on parlait de ça en fin de semaine, puis on se disait pourquoi les entreprises continuent d'acheter des masques jetables comme ça au lieu de encourager une entreprise locale comme Jig Design, comme Gagnon Image, comme des couturiers, couturières du Québec, acheter, mettons, 5 masques que t'offres à ton employé comme un uniforme de travail, puis va les laver un par jour à chaque semaine.
Oui, c'est pas énorme laver ça non plus, nettoyer
ben
ça.
Non. Puis tu sais, c'est 5$ par jour pour un employé, c'est 25$ par employé, puis c'est bon éternellement.
C'est peut-être
là, on
parce qu'il y a un délai avant d'avoir ces fameux masques-là, faut
Je comprends,
Tandis que les masques bleus réutilisables, tu reçois une boîte, puis c'est réglé.
Mais en même temps, il y a aussi une pénurie de ça dans les hôpitaux, tu sais.
Oui,
fait que là, il faut faire notre choix. Je pense que tout le monde gagnerait si, oui, temporairement, on peut peut-être utiliser ces masques bleus-là parce que ça les prend maintenant. Ça, je comprends. Mais peut-être envisager acheter des masques réutilisables en tissu comme ça pour les entreprises. Puis en même temps, ben, c'est comme un uniforme. Vous le fournissez à votre employé. Il a la responsabilité de les laver. Puis comme
de
ça, ben, ils sont beaux en plus. On peut les choisir. Mm-hmm. Puis on peut les faire faire à l'image de l'entreprise. Il y en a de plus en plus qu'on voit. Alors, ben, n'hésitez pas à encourager l'économie locale avec ça aussi. Puis à penser à l'environnement en réutilisant ça. Parce que après ça, ça va d'embrasser. Puis c'est réglé, là. Un par jour, c'est pas plus compliqué que ça. Je pense qu'on a tous, à un point ou à un autre, tenté de faire du télétravail pour ceux, évidemment, qui ont gardé leur emploi dans cette pandémie de coronavirus. Et c'est surprenant à quel point même le gouvernement a été en mesure d'y arriver. Il y a pas moins de 71% des fonctionnaires du gouvernement qui font du télétravail au moment où l'on se parle.
Okay.
C'est énorme. C'est 65 000 personnes. Et ils ont fait ça en 3 semaines seulement. Faut dire que ça a été toute une transformation, puis à la vitesse grand V pour eux aussi, parce qu'à la base, il y avait seulement 750 personnes au gouvernement qui pouvaient faire du télétravail puis avoir une connexion au réseau sécurisé du gouvernement. Sauf que là, ça en prend 65 000. Alors, il a fallu comme tout changer du jour au lendemain. Et si bien que il y a le ministre délégué à la transformation numérique, Éric Kerr, qui dit que c'est quand même réalisable et souhaitable qu'à la fin de la pandémie, il y ait quand même autour de 20% des fonctionnaires qui puissent continuer à faire du télétravail. Alors, on y prend goût, puis ça a des avantages considérables pour la conciliation travail-vie personnelle aussi.
Ben oui,
ça, c'est une des facettes les plus agréables. Celle qui pose un plus grand défi, cependant, c'est la performance au travail. C'est difficile pour un gestionnaire de veiller à ce que le travail soit quand même fait dans les temps et bien fait, et fait en quantité aussi, alors qu'on est à distance. Alors, c'est pour ça que le gouvernement québécois va beaucoup investir dans la formation aux gestionnaires pour le télétravail. Puis j'ai comme l'impression que toutes les entreprises gagneraient en 2020 de s'y intéresser davantage, parce que avec Internet, puis comment on déploie le réseau Internet partout à travers la province, là, les raisons sont de plus en plus rares pour expliquer qu'on peut pas faire de télétravail. C'est sûr qu'il y a des jobs qui vont toujours nécessiter d'avoir quelqu'un en personne, là. Les ambulanciers, des préposés aux bénéficiaires, des caissiers, des caissières, des affaires de même, c'est certain. Mais on s'entend, même nous, là, on peut faire du télétravail, puis arriver dans votre foyer pareil avec votre haut-parleur intelligent ou encore votre radio à la maison. Donc, c'est en transformation, puis je pense que il faut s'y... je veux pas dire s'y résilier, parce que c'est comme un peu une défaite, là, mais il faut s'y faire, parce que ça va continuer
de changer. Ça va continuer encore, là. Il y a des entreprises qui ont dit qu'elles allaient rester en télétravail jusqu'à la fin de l'année 2020 pour
c'est
plusieurs.
Long, hein?
Donc, on a encore quelques mois devant nous.
Avec le confinement, l'univers des jeux vidéo, évidemment, est en pleine effervescence, puis tant mieux. Puis ici, on a des grands artistes de jeux vidéo qui sont diplômés de Rivière-du-Loup, de la Pocatière, également de Matane. Alors, t'as des jeunes diplômés qui veulent se lancer dans ce domaine-là, mais t'es obligé d'aller dans des grands centres comme à Québec, à Montréal, à Toronto. Ces temps-ci, aller à Québec, Montréal ou Toronto, ça tente pas trop, hein?
C'est quoi cette voix-là?
Aujourd'hui, à Montréal, s'amorce le déconfinement, puis ça rend bien du monde monde inquiet parce que c'est l'épicentre de la pandémie à travers le Canada. Là, c'est quand même pas rien. Alors, ces travailleurs-là qui voudraient se lancer en carrière dans les jeux vidéo, ben ils pensent à deux fois avant d'y aller. Sauf que le télétravail, comme on parlait un peu plus tôt, rend ça peut-être un peu plus attrayant parce que avec le télétravail, tu peux certainement gagner un salaire semblable en travaillant à distance.
Ben oui, maintenant, là, les distances, c'est fini ce temps-là.
Et pourtant, les jobs les plus payants sont toujours dans les plus grands centres. Au Canada, là, si tu vas travailler à Vancouver ou Toronto, là, tu fais la grosse pièce.
Oui, je sais, mais ça commence tranquillement, je pense, à disparaître là, cette notion-là.
Oui, sauf que les employeurs, eux, voient ça. Prends par exemple le cas de Facebook en ce moment. Habiter dans la Silicon Valley, là, dans le coin de San Francisco, dans la Bay Area, c'est pas achetable. Même sur Airbnb, même louer un hôtel à location, je sais parce que je suis allé, ça a pas d'allure. Okay. C'est genre 300 piastres la nuit. Là. C'est ridicule. Alors, quand tu vas travailler là, ben ton salaire, c'est sûr qu'il est en conséquence. Des employeurs comme Facebook qui va tuer des gens, ben il n'y a pas le choix de les payer pour qu'ils soient capables de vivre à cet endroit-là puis travailler. Mais avec le télétravail, c'est peut-être moins vrai. Alors, tu as des employés des grandes compagnies de la Silicon Valley, justement, qui disent, ben moi, je vais continuer de faire du télétravail, mais je vais vendre ma maison ou mon appart, puis je vais aller m'installer dans le fin fond du bois à quelque part.
Où ça me coûte moins cher,
exact.
Finalement.
Facebook a dit, oui, on encourage le télétravail, mais si on se rend compte que ton adresse change, ben ta paye aussi va changer. Hey, ça, c'est-tu ras un peu?
Ah ouais, OK, en fonction d'où tu vis?
Ben oui, c'est de la discrimination rendue là. T'sais,
c'est ordinaire.
C'est très ordinaire.
C'est très ordinaire.
Ça te coûte moins cher de payer où ce que tu vis, ben on va te payer moins cher. Hey, attends un peu, toi, là.
Non, ça n'a aucun sens. Oh. Pour le même travail en plus.
Tu vois, hein, le télétravail soulève plein de questionnements.
Ouais.
En fin de semaine, est-ce que vous avez fait la grande purge de vos collectes, de vos contenants réutilisables, de vos canettes, de vos bouteilles au profit des pionniers du football collégial du cégep de Rimouski et également de Moisson Rimouski-Neigette dans le stationnement du cégep? Il y avait une foule de monde qui en ont profité, une collecte sans contact, et les revenus de ça vont directement aux pionniers et également à Moisson Rimouski-Neigette. Puis il y avait à gagner une place pour les deux frères en formule Cinépark pour les grandes fête TELUS. Alors ça a été attribué. On n'a pas de détails sur la quantité amassée parce que c'est quand même long, compter des canettes puis des bouteilles, on s'entend. Mais sachez qu'à partir de maintenant, il y a les épiciers qui vont commencer à accepter les contenants réutilisables. Oui. Mais il y a quelques conditions cependant. Ça se peut que ce soit sur des horaires particuliers. Je pense à Métro Sirois ici, je pense que c'est en après-midi seulement, puis faut qu'il y ait le respect de certaines consignes. Par exemple, les canettes et bouteilles doivent être bien rincées, placées dans un sac et déjà comptées. Les caisses de bière doivent être pleines et classées par couleur de verre, donc toutes des contenants du même type dans la même boîte pour faciliter justement le comptage de ça, puis s'assurer aussi qu'il n'y a pas de bouteilles manquantes, etc.
Donc, arrivez pas là avec vos bouteilles toutes mélangées dans une boîte.
C'est
ça. Ça ne fonctionnera pas.
Faut vraiment tout classer ça, mettre ça dans des sacs. Puis chaque épicier aussi a sa propre méthode et son propre horaire.
Bref, il faut s'informer avant.
C'est ça. Allez sur les pages Facebook des différentes épiceries ou la prochaine fois que vous faites votre épicerie, posez des questions puis prenez ça en note parce que, évidemment, comme n'importe quel passage à l'épicerie, le moins on y va, mieux c'est pour pas déborder les gens aussi parce que là, ben, ça prend de la place. Si t'as une file de char pour aller déposer des canettes sans contact, c'est de l'organisation ça aussi. Alors, on essaie de leur épargner le plus de pépins possible. Une première au Québec, il y a le vignoble Bergeville qui va proposer un vin pétillant en canette.
Ah!
Hey, ça, c'est pratique, ça.
Oui.
Oh, l'été, là, un petit vin pétillant en canette. Puis en plus, selon la description du vin, on dit que ce sera un vin pétillant élaboré pour être bu rapidement et sans artifice. Hey, parle-moi de ça, vends-moi une caisse.
Des bulles pour être bu rapidement.
Ben oui, lâche un gros rot après.
Avoir les petites jambes molles après.
Oh,
hein,
non, mais à la place. Un vin blanc en canette, quelle bonne idée.
C'est vrai que c'est une bonne idée.
C'est particulier aussi parce que, bon, c'est un produit, un vin québécois, c'est cool. On a un vignoble aussi, sauf qu'on va prendre des raisins, on va le faire fermenter de façon traditionnelle, mais après ça, pour le mettre en canette, il va fermenter une deuxième fois dans la canette. C'est un vin qu'on appelle style col fondo. C'est une façon particulière. Ça vient avec un lit également, donc c'est un vin pétillant sur lit. Ça se boit très bien.
Ça vient avec
c'est
un
frais.
Lit.
Comment appeler
tu
un lit?
Tu viens de me perdre.
Comme une bière sur lit, c'est-à-dire il y a des dépôts dans le fond.
Ah, OK.
Ça ajoute beaucoup de goût au vin. Mais évidemment, ça fait des dépôts dans le fond. Ça, c'est à surveiller. Donc, tu sais, tu cales pas jusqu'à la dernière gorgée. Il faut que tu en laisses un fond quand même parce que sinon, c'est un peu raide, je t'avouerais.
Okay.
Et ça a l'air très, très bon. Alors, le vin va s'appeler... j'avais le nom et il m'a échappé. Il va s'appeler Atelier B.
OK.
Et ça va être disponible fort probablement partout en canette. C'est cool. Et c'est réutilisable aussi. Contrairement aux bouteilles en ce moment, que c'est vraiment compliqué.
Ouais, c'est un fléau,
ça. Ça, c'est pas facile. Alors, informez-vous si ça vous intéresse, Atelier B.
Ben oui,
un vin blanc pétillant de toute beauté et très intriguant. 7h55, c'est quoi votre boisson estivale par excellence? Ce que vous buvez là ces temps-ci lors des journées chaudes, écrivez-nous au 6-12-13. Oui, c'est lundi. Oui, il est 7h55. Mais savez-vous quoi?
Vous
c'est
en avez
grave.
Sûrement profité en fin de semaine,
ben
par
oui.
exemple.
Oui. Ben oui, c'est sûr. Puis on en a donc besoin ces temps-ci. Hein?
Au cours de la fin de semaine, on a eu quelques bonnes nouvelles concernant le milieu de la culture au Québec à l'heure du déconfinement.
Oui.
Il y a la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, qui a annoncé quelques petites mesures qui concernent les musées ou encore les cinéparcs du Québec.
Oui.
On aura l'occasion d'y revenir. Certains sont restés sur leur appétit, mais bon, c'est un début. Aussi, un petit mot sur l'auteur François Bérubé, qui va lancer cette semaine un autre livre, Planète Hockey. Lui qui va également se consacrer à un nouveau sport au cours de l'automne prochain dans l'écriture de ses romans.
Okay.
Puis c'est toujours intéressant de pouvoir voir sa créativité. Puis François Bérubé, non seulement là, l'auteur en a fait des livres, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est capable, avec son écriture, d'accrocher les jeunes garçons aussi à la lecture.
Ce qui n'est pas facile.
Ce qui n'est pas facile.
Puis les inciter au sport.
C'est ça. Donc, on va revenir là-dessus. Et aussi, tournage qui va reprendre pour ce qui est du film Avatar 2. Ça fait tellement longtemps qu'on attend Avatar 2, puis on a toujours des bâtons dans les roues de toutes sortes de façons.
On dirait que j'y crois pas jusqu'au moment où il va être à l'affiche.
Ben, c'est ça, mais là, ça prend forme de plus en plus.
OK.
L'Université du Québec à Rimouski se prépare à vivre un trimestre bien particulier, évidemment, cet automne. L'établissement revoit, bien sûr, ses manières de faire, offrant un enseignement à distance et aussi en présentiel, tout en s'assurant de respecter les mesures dictées par la santé publique. Alors, le calendrier universitaire sera respecté et le même éventail de programmes s'offrira aux étudiants et étudiantes, en plus de l'ajout de la maîtrise en travail social. La plupart des cours seront donnés à distance, à l'exception de certaines formations pratiques qui nécessitent du travail en laboratoire ou encore des recherches sur le terrain. Le nombre de personnes à l'intérieur même de l'établissement de Lucar sera limité. Le port du masque sera prescrit dans certaines situations. Il y aura aussi des mesures d'hygiène et de distanciation physique, ça va de soi. Le recteur de Lucar, Jean-Pierre Ouellet, indique que la formation à distance était déjà l'une des forces de son université. Chaque année, environ 1000 étudiants et étudiantes bénéficient déjà de la formation à distance. Une équipe de technopédagogues travaille avec les enseignants chargés de cours et membres du personnel qui sont peut-être un peu moins familiers avec ces méthodes. Jean-Pierre Ouellet n'écarte pas du tout la possibilité de devoir faire des ajustements, bien évidemment, en cours de route. Tout comme les bars, les restaurants et les campings, dont il y a beaucoup question depuis quelques jours, les églises souhaitent également rouvrir leurs portes dès que possible. L'Assemblée des évêques catholiques du Québec a préparé un plan de reprise des activités qui n'a toujours pas été approuvé par la santé publique. Un rituel qui se ferait sans contact physique et la distribution des hosties serait effectuée avec un masque. La ville d'Amqui confirme la vente de l'ancienne usine Hycom, située au 310 sur rue des Forges à l'homme d'affaires René Fournier, qui est aussi président de l'entreprise Sanimanic. Le montant de la transaction s'élève à 54 000 $. Cette usine, construite en 1995 et dont les activités ont cessé en 2004, se spécialisait dans l'extraction de produits forestiers à des fins pharmaceutiques. Le bâtiment qui n'est plus alimenté en électricité depuis déjà 2016, contient du matériel et aussi des équipements désuets. On écoute le maire d'Amqui, Pierre Damour.
Les années où l'électricité était fermée, il y a eu une détérioration du bâtiment. Alors ça, il fallait le considérer. J'avais déjà indiqué l'automne dernier là, qu'il fallait être plus réaliste dans nos ambitions en regard de cet équipement-là qu'on avait acquis en 2017. La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on a un entrepreneur qui est intéressé à créer une activité économique et c'est ça qu'il faut retenir là, au-delà de la valeur de la transaction.
Rappelons qu'en juin 2017, la ville a acquis cette usine à la suite d'une vente pour défaut de paiement de taxes. Et la ville de Rimouski débute aujourd'hui une série de travaux dans le chemin du troisième rang du Bic et le chemin des Chénards pour diminuer l'impact sur la circulation d'ici la fin de l'été. Les travaux seront d'ailleurs divisés en trois parties. Annonce si bien qu'à partir d'aujourd'hui jusqu'au 17 juillet, les travaux se déroulent sur le chemin du troisième rang du Bic à partir de l'ancienne limite municipale allant jusqu'à la montée Armand-Briand.
Il y a un auteur de Rimouski qui va lancer mercredi un autre livre. C'est François Bérubé avec la série Planète Hockey. Le tome 4 sera disponible ce mercredi. Et c'est en fait le quatrième et le dernier tome de la série Planète Hockey, alors qu'on suit toujours l'aventure du sportif Alexis Chevary, qui est maintenant âgé de 15 ans et qui entame sa dernière saison dans l'équipe du Midget 3A des Albatros à Rivière-du-Loup avant d'accéder à la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et là, ben, c'est sûr qu'on est dans quelque chose de sérieux. Il devra faire face à toutes sortes de nouveautés. Ouais. Alexis Chevary, non seulement il va être loin de sa ville natale, mais il va devoir affronter aussi son meilleur ami qui va lui donner du fil à retordre dans une autre équipe. Alors, c'est toujours intéressant de voir non seulement que le sport prend beaucoup de place dans cette série-là, mais aussi tout ce qui entoure le sport. Mmh. Et c'est ce qui fait en sorte que les livres Planète Hockey de François Bérubé sont si populaires auprès des jeunes, auprès des jeunes hommes aussi, hein, ben parce que c'est toujours le fun de les inciter à la lecture. Puis ça, ben, c'est vraiment un bel incitatif. Alors, c'est le dernier tome de Planète Hockey, parce qu'à l'automne prochain, François Bérubé a l'intention de lancer Planète Snowboard. Oh. Je ne sais pas combien il va y en avoir, mais c'est dans les projets. Le tournage d'un film qu'on attend avec impatience depuis 11 ans est sur le point de reprendre. C'est la suite du film Avatar.
Ah, on n'a pas abandonné.
On n'a pas abandonné. James Cameron est toujours dans le projet à fond. Du côté de la Nouvelle-Zélande, c'est là qu'on décide de reprendre le tournage, okay, parce que là-bas, avec les mesures de déconfinement, on est rendu là.
OK. Donc, c'est pour les films 2 et 3, hein, je pense. On fait comme deux tournages en même temps.
Ben là, évidemment, on va essayer d'en faire le plus possible parce qu'on a quand même trois films à sortir. Films à sortir, donc une trilogie, au moins. Budget de 250 millions par film.
OK.
Parce que, bon, faut s'attendre à ce que ce soit très lucratif. Là.
Ben,
le premier Avatar avait amassé pas loin de 3 milliards de dollars au box-office. Ça avait été un succès monstre.
Jusqu'à tout récemment, c'était le film à barre.
Oui, puis en même temps, quand c'est sorti Avatar en 2009, mm-hmm, c'était aussi le début un peu du 3D.
Oui, c'est vrai.
Donc, c'était impressionnant à voir là, dans les salles de cinéma visuellement, c'était très beau. Alors, c'est sûr que la barre est haute cette fois-ci pour ce qui est du deuxième volet de Avatar. Normalement, on pourrait revoir aussi les acteurs du premier, là, avec 10 ans de plus, mais bon.
Il y avait tellement de maquillage que...
Non, c'est ça. Donc, c'est sûr que j'ai hâte de voir ça parce que faut dire que le propos d'Avatar est toujours dans l'air du temps, même encore plus qu'avant.
Genre le respect de l'environnement.
Oui, c'est ça. Donc, j'ai hâte de voir comment est-ce qu'on va s'être adapté aussi au fil des ans là, pour le concept. Au cours de la fin de semaine, la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, a fait des annonces pour ce qui est du déconfinement dans le domaine culturel. Il y a quelques petites choses qui ont été annoncées. C'est certain que pour les artistes, on aurait peut-être aimé avoir un déconfinement un peu plus large, mais c'est un début. Alors, les musées, entre autres, vont pouvoir ouvrir leurs portes à compter du 29 mai. Évidemment, avec toutes les mesures de distanciation sociale, mais on s'entend que dans un musée, il y a de l'espace, normalement, pour circuler.
Si t'es à 2 mètres de quelqu'un, t'as toi, là, je veux dire, à un moment donné...
Non, c'est ça. Donc, c'est quelque chose qui est possible, évidemment. Aussi, les comptoirs de bibliothèque, le service de prêt de livres, de documents, seront à nouveau disponibles. L'accès au rayon va demeurer interdit, sauf que vous allez pouvoir quand même vous rendre à la bibliothèque et circuler dans les zones des comptoirs de service pour aller chercher vos choses.
Oui, puis je veux dire, c'est facile de consulter de façon numérique aussi la bibliothèque maintenant. Là,
oui.
Puis c'est tellement pratique avec le confinement qu'on a vécu. On a passé au travers de tous les livres qui traînaient chez nous.
Tellement. Ouais. Les cinéparcs, ça ne nous concerne malheureusement pas non. dans Rimouski-Métis, mais au Québec, ça pourra rouvrir le 29 mai. Et aussi, on va être en mesure de reprendre tout ce qui est enregistrement dans des studios pour la musique.
Ben oui.
Parce que ça, tout ça, c'était arrêté.
Ouais.
Alors, on va pouvoir enregistrer des albums là, pour les artistes qui attendent avec impatience de pouvoir rentrer en studio. Alors, ça fait partie des mesures permises. Puis, on en attend d'autres aussi là, au cours des prochaines semaines. La chanson « Baby One More Time » de Britney Spears, plus de 20 ans après sa sortie, vient d'être élue la meilleure première chanson de tous les temps par le prestigieux magazine Rolling Stones.
Ah ouais.
Rolling Stone, plutôt. Pourquoi? Ben, ça dépend des goûts. Là. On parle pas vraiment de musicalité ici, mais plutôt du fait que ça a été un véritable coup de circuit pour Britney Spears quand elle a lancé cette chanson-là en 98. Parce que non seulement ça a révélé à la planète entière, la jeune chanteuse qui était âgée seulement de 16 ans quand elle a lancé Baby One More Time, mais par la suite...
C'est très litigieux considérant les paroles de la chanson.
Ben, ça avait fait d'ailleurs un débat, ça avait fait jaser beaucoup vers la fin des années 90. Mais aussi, il y avait l'album qui s'appelait aussi Baby One More Time.
Ouais.
On s'est pas cassé la tête, on a lancé la chanson avec le même titre pour l'album.
Ben oui.
Et on a 30 millions de copies de cet album-là qui se sont vendues par la suite. Donc vraiment, ça a été une véritable bombe qu'a lancée Britney Spears en 1998. Et ça explique pourquoi cette chanson-là est élue meilleure première chanson de tous les temps.
C'est ainsi qu'on se laisse. C'est la fin pour cette édition du lundi 25 mai d'On est tous debout. Vous voulez rien manquer? Écoutez-nous demain dès 5h25 parce qu'à gagner...
À gagner votre item aux couleurs du 102.9, que ce soit le sac à lunch, la tasse à café, le porte-clés, le T-shirt, vous allez avoir le choix demain.
Passez une excellente journée, profitez du soleil et de la chaleur. À demain!
Yeah! On est tous debout!